Oui, je veux vous faire souffrir. Elle est excellente, Jean-Claude. Je veux voir comment vous allez endurer la souffrance. C'est pour votre bien, c'est par amour. Surtout que ce matin, on continue de parler de l'utilité de la souffrance. Est-ce que ça peut servir à quelque chose, la souffrance, dans la vie? À quoi ça peut servir? Faire crier. Il y en a qui aiment ça crier. Fait que la souffrance peut être un moyen. Crier à Dieu, effectivement. Disposer nos cœurs à écouter. La souffrance nous rappelle qu'en réalité, on est des êtres, des créatures beaucoup plus dépendantes que ce que l'on croit. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose de profond à ce niveau-là dans la souffrance où est-ce que finalement on se rend compte que on n'est pas au contrôle de grand-chose et puis autant puissant on pourrait se penser, ben la souffrance nous rappelle que finalement on l'est pas tant que ça. Puis et plus ça va, plus selon les lectures que j'ai faites, les psychologues sont en train de se rendre compte que souvent on dit les gens sont en dépression parce que ils ont une vision de la réalité qui est tordue ou qui est plus représentatif des faits. Et puis ceux qui sont pas en dépression, ben ils ont une vision de la réalité beaucoup plus juste. Mais ils sont en train de se rendre compte que c'est pas nécessairement vrai. Que ceux qui ont pas jamais vécu une dépression, ils ont pas nécessairement une vision de la réalité qui est juste. Parce que justement, ils se croient beaucoup plus au contrôle que ce qu'ils sont en réalité. Et ils ont une perspective de leur puissance qui est complètement erronée. Et c'est une position qui est dangereuse, émotionnellement parlant, parce que c'est inévitable. Un jour ou l'autre, entre parenthèses, la vie va te rattraper. Vous savez ce que je veux dire? C'est inévitable, il y a des souffrances qui vont arriver. Puis ta conception de ta puissance va être confrontée, c'est inévitable. Tandis que ceux qui ont passé à travers une dépression, ils ont une vision de leurs limites beaucoup plus réaliste. Ils ont une vision de la vie qui est plus près de la réalité. Donc, ils sont en train de se rendre compte de ça, puis c'est une notion qui est en train d'apparaître de plus en plus dans les littératures professionnelles. Mais il y a encore des gros débats au niveau des professionnels, si on peut dire, de la pensée humaine, de l'émotion, de toutes ces choses-là concernant la souffrance. D'autres utilités à la souffrance, d'autres choses qu'on a vues depuis le début. On a vu beaucoup de choses par rapport à la souffrance. Ça nous rend plus sensibles envers les gens. Oui, il y a tout qu'un passage qui, je pense que c'est dans 2 Corinthiens, qui parle c'est le début de 2 Corinthiens, je pense, de recevoir la consolation. Quand on reçoit la consolation de Dieu, on est en mesure de l'apporter aux autres. En étant en mesure de l'apporter aux autres, ben de cette façon-là, on contribue à apporter, que Dieu apporte la consolation dans leur vie. Et puis, ça les emmène à se rapprocher de Dieu, à connaître Dieu, puis à recevoir la consolation. Effectivement, ça nous rend sensibles, ça nous rend humbles et à l'écoute de celui qui souffre. Et ça nous permet de marcher avec lui, parce que nous-mêmes, on a déjà vécu des souffrances et on a reçu la consolation de Dieu également. C'est vrai, oui. D'autres choses? Oui. Non, vas-y, c'est correct. Ça nous rapproche des sentiments de Jésus-Christ parce que on a vu l'association à la souffrance de Christ. Nos souffrances, ils sont associés à celles de Jésus. Et c'est la clé au niveau de la gloire de Dieu. De quelle façon nos souffrances rendent-elles gloire à Dieu? C'est par association à celles de Christ. On va y revenir encore cet élément-là ce matin parce que c'est tellement important. Lise. Il Il y a un élément de se renforcer hein, quand on passe à travers des souffrances. Et puis, c'est le sujet de ce matin, on touche à ça, à cet élément-là de renforcement. Oui, c'est vrai, excellent, excellent. Dans la dernière semaine, la semaine passée, on a parlé d'un sujet en particulier, on a parlé de la gloire de Dieu, hein? On a parlé de la gloire de Dieu. On a touché un peu. Le lien entre notre souffrance et la gloire de Dieu, c'est quoi? Le lien entre notre souffrance, en quoi nos souffrances glorifient-elles Dieu? Je venais de vous le dire. C'est bien. C'est parce qu'on est associé à Jésus-Christ, hein? C'est vraiment, bien, premièrement, c'est quoi la gloire de Dieu? C'est de reconnaître. Là, j'avais mis le mot « distanciation ». On avait défini un autre mot la semaine passée, mais je ne l'ai pas changé dans mon PowerPoint. Mais c'est l'élément de dire que Dieu, là, il est infiniment supérieur à nous en tant qu'être. Nous, on est fini, et défini, et lui, il est infini. Fait qu'il y a l'élément de reconnaître que Dieu, il est infiniment, même au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, OK? Plus grand que nous. Fait que c'est de reconnaître cette position-là de Dieu, de le reconnaître pour qui il est. Fait que de rendre gloire à Dieu, c'est premièrement de reconnaître cet élément-là concernant la personne de Dieu. C'est de reconnaître son importance suprême, que Dieu doit avoir plus d'importance que quoi que ce soit d'autre dans notre vie. Quoi que ce soit, OK? N'importe quoi. Rien ne doit avoir plus d'importance que Dieu. Parce que nous accordons gloire à ce qui prend la priorité dans notre vie. On se souvient du mot gloire, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Le mot gloire dans l'Ancien Testament, c'est le mot poids. Avoir un poids, avoir de l'importance. D'être présent, d'être là. Et d'avoir de l'importance. Dans le Nouveau Testament, ben c'est l'autre après. Fait que l'élément là de reconnaître son importance, de reconnaître son poids, sa valeur. Et quand je donne plus d'importance à une autre chose qu'à Dieu, je suis en train de donner gloire à cette chose-là. Parce que je suis en train de lui donner plus d'importance qu'à Dieu. Fait que ce à quoi j'accorde mon importance, c'est ce à quoi je donne gloire dans ma vie. Donc, on est là pour donner gloire à Dieu dans toute chose. Mettre Dieu en premier. Fait que ça fait partie de rendre gloire à Dieu. Son absolue splendeur et beauté. Le mot gloire dans le Nouveau Testament fait référence à la beauté, à la magnificence, à la lumière, à la splendeur, à la beauté immense de Dieu, de voir, de reconnaître la beauté de Dieu. C'est intéressant parce que nos cœurs sont attirés par les choses qui sont belles et bonnes. Nos cœurs sont en amour avec les choses qui sont belles et bonnes parce que l'amour, c'est une réponse. Quand nos cœurs voient quelque chose de beau et de bon, il va être attiré vers cette chose-là. Il s'attache. Il y a un lien qui se crée. C'est là que l'amour se crée, se forme. Parce que c'est pas quelque chose qui se force, l'amour. Ça ne s'oblige pas. Donc, de voir la beauté de Dieu, de voir la bonté de Dieu va attacher nos cœurs. Oui, Jean-Claude. Nous attire. Oui, puis on peut pas s'imaginer. Déjà, dans l'ancien, il y avait une relation intime avec le Seigneur et C'est... Oui. David, c'est vraiment un modèle. L'homme selon le cœur de Dieu. Hein? La raison pour laquelle David a pu être aussi attaché à Dieu, c'est parce qu'il le connaissait. Il avait vu. Il avait exposé son cœur à sa beauté. Et puis, c'est le psaume 27 hein, que tu as cité tantôt. Dans le psaume 27, il a hâte de se trouver devant Dieu et de le louer, de l'adorer, de constater de ses propres yeux, sans filtre, la beauté et la grandeur de Dieu. Ça a un effet qu'il ne faut pas sous-estimer sur le cœur humain. Le fait de s'exposer à la parole de Dieu qui est là pour nous dépeindre la beauté de Dieu d'un couvert à l'autre. C'est le but des Écritures, c'est de nous montrer à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est beau, à quel point il nous aime, à quel point il est digne de la gloire. Il est digne de cette gloire-là, dans le but que nos cœurs s'y attachent. C'est pas juste intellectuel. Ça crée quelque chose. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle ne revient pas sans effet. Oui, Yves. Ça change notre focus complètement. Et quand on parle d'un sujet comme la souffrance, ces notions-là sont fondamentales. De comprendre ce qu'on est en train de voir présentement, la raison pour laquelle on s'y attarde autant, la raison pour laquelle on s'y attarde si longtemps, OK? C'est parce qu'on ne peut pas survivre aux souffrances sans avoir compris ces choses-là. On ne peut pas. Ou la façon dont on va traverser nos souffrances ne sera pas pour la gloire de Dieu. Et la façon dont on va finir par traverser nos souffrances ne nous rendra pas plus forts et plus grands. Au contraire, va nous affaiblir, va nous blesser, et va nous éloigner de tout ce pourquoi la souffrance, elle a été permise dans la souveraineté de Dieu. Vous savez, la façon dont on vit notre souffrance a un impact sur son utilité dans notre vie. Parce qu'on a un choix à faire quand on est dans la souffrance. On a un choix. La façon dont on va traverser cette souffrance-là, la façon dont on va la processer dans notre tête, mais aussi la façon dont on va la processer, je sais pas si c'est un vrai mot, dans notre cœur, va avoir un impact. Et c'est important de se préparer à la souffrance, autant d'une façon intellectuelle que de cœur. Parce que si on ne se prépare pas à la souffrance, de se préparer ou d'essayer de sortir quelque chose de bon d'une souffrance quand on est en plein dedans, c'est pas nécessairement le moment. Avez-vous déjà fait du rafting?
Oui.
Moi, j'en ai déjà fait aussi. Et c'est pas pour rien que, d'avant d'embarquer dans le bateau, il donne un cours. Il nous donne un cours. C'est très théorique. Mais la chose qu'il nous répète, hein? Ça m'a aidé beaucoup. Parce qu'il te répète la phrase qu'il te répète tout le temps pendant le cours. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Pas de panique. C'est important. Parce que comme on a dit, faut qu'il reste calme. C'est facile. Reste calme. J'ai dit, écoute pas. C'est la même chose avec notre cœur. Il a beau te le dire avant, quand tu es sous l'eau, en dessous du bateau, puis que tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir.
La réponse est
prête. Tu vas toujours monter, fait que continue de regarder en haut. Mais tu te répètes la phrase. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Ça va finir un jour. Panique pas. Puis là, tu prends ta bouffée d'air. C'est la même chose avec la souffrance. On a la théorie, on la regarde, mais il y a aussi la pratique. La façon dont je vais le vivre, je le sais pas tant que je serai pas dans l'eau, tant que je serai pas là. Tant que la vague qui est plus haute que le plafond, là, sera pas devant moi, là, je le verrai pas. À un moment donné, c'est ça qui nous est arrivé. La première vague, le premier rapide, c'est comme la rivière est large. Ouais. Puis là, même rapide, bon, hein, tu vois, il nous a marqué. C'est phénoménal, cette place-là. Puis là, la rivière, là, elle passe entre des gorges. Elle fait ça comme ça. Mais elle a le même débit d'eau pareil. C'est juste que ça fait ça, puis il y a une vague là-dedans. Moi, j'étais assis en avant. Et puis là, notre guide, il l'a pas pris la bonne place. Puis là, le bateau, il a fait, on est arrivé dans la vague, puis là, tu montes. Là, c'est un mur, OK? Tu montes un mur. Puis là, dans le haut de la vague, il y a le remous. Puis nous autres, notre bateau a fait, pouc! Il a resté là. Il a pas passé la vague. Il est resté là. Et là, ça a commencé à faire ça. Puis là, le guide savait plus quoi faire. Et puis là, il nous a quasiment dit « Sauter, non, rester, sauter, non, rester. » Mais finalement, le bateau, il a fait ça. Et puis nous autres, on est partis. Mais quand tu es là, puis c'est drôle parce qu'à cette place-là, ils prennent une photo. Ils sont spotés là. Ouais, mais il y a quelqu'un dans notre gang qui l'a la photo, mais je sais pas qui, puis je sais pas où, parce que je vous l'aurais montré. Moi, dans ma tête, là, je suis de même. Wouah! Mais en réalité, je suis vraiment de même. J'ai regardé la photo, je suis genre, non, elle est pas belle, cette photo-là. Parce que c'est pas l'image que t'as de la façon dont tu l'as vécu. Mais tout ça pour dire que quand on est dedans, on ne sait pas comment notre cœur va réagir, mais il réagit. Oui. Mais, à ce moment-là, on pourrait dire, « Hey, ta théorie, là, elle ne sert à rien. Elle ne m'a pas aidé pantoute. Et puis, je n'ai pas réagi comme c'est écrit dans un livre. » Ça peut être notre première impression. Mais une fois que tu es dans l'eau, puis là, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour survivre? Il m'a dit, reste calme, je vais finir par remonter. Oh, là, la théorie commence à prendre du sens. La théorie commence à devenir un soutien, un appui, un repère. Et là, la situation évolue, la situation change, et on se rend compte qu'en réalité, la théorie... elle est vraie. C'est pas de la frime. C'est pas juste pour mon bien-être intellectuel. C'est concret, c'est pratique, c'est vrai. Mais est-ce que c'est facile? Non, parce que c'est un processus. Il y a un combat, là. Il y a des choses qui se passent. Et c'est tout le processus de la vérité qui passe de la tête et qui descend dans le cœur. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut l'imaginer. Et à travers tout ça, on a tous des personnalités différentes, on a tous une histoire différente, on a tous des automatismes différents, on a tous des forces et des faiblesses différentes. Et tout ça, en ligne de compte, fait en sorte que la façon dont on va la vivre, ce processus-là, est complètement différent pour une personne que pour un autre. Il n'y a pas de manuel, de ligne tracée, toute définie. C'est unique à chacun. Mais de se préparer va faire la différence. Parce que quand on est en dessous de l'eau, en dessous du bateau, puis tu ne sais pas quoi faire, mais c'est là que tu fais des erreurs qui vont te coûter la vie. Puis ça ne pardonne pas. Et c'est la vie est comme ça aussi. Quand on a les deux pieds dans la souffrance, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. La souffrance, elle est cruelle et la souffrance emporte des vies tous les jours. Quand ce n'est pas la maladie ou un accident ou des choses de même qui l'emporte, c'est la personne qui vient prendre sa propre vie. À cause de quoi? De la souffrance. ne sous-estimons pas la puissance de la souffrance et jusqu'où qu'elle peut nous mener, cette souffrance-là. Parce que je doute que ceux qui posent ce geste-là, c'était leur objectif, puis c'était leur but au final. La seule chose qu'ils voient, c'est mettre fin à mes souffrances parce qu'elles sont insupportables. Et leur perspective en est complètement transformée. Donc, notre préparation à cette souffrance-là fait la différence. Et de comprendre que dans la souffrance, peu importe ce qu'elle est, la façon dont je choisis de la vivre va avoir un impact. Je vais sauter quelques passages qu'on avait vus la semaine passée. Je veux vous citer cette référence-là ici, de Timothy Keller, « La souffrance, marcher avec Dieu à travers les épreuves et la douleur ». Le matériel, là, je vous dirais, là, 80 % de ce que je vous présente depuis le début vient de ce livre-là. Si vous voulez ajouter un livre à votre bibliothèque pour creuser, digérer davantage tout ce sujet-là, bien, regardez, 80 % de tout ce que je dis depuis le début vient en grande partie de ce livre-là, de son raisonnement, de sa logique, de sa façon de l'apporter pour mettre chaque bloc en place, pour nous emmener à bien la comprendre. Merci pour Timothy Keller pour sa sagesse puis sa sensibilité à travers tout ça. Donc, je vais sauter ces passages-là. La façon dont on choisit, parce qu'on les a vus la semaine passée, la façon dont on choisit de vivre notre souffrance va faire la différence. Ces deux psychologues-là, James Davie et Jonathan Haid, je ne sais pas comment dire son nom, on va l'appeler Jonathan, distinguent deux façons de supporter la souffrance. D'un point de vue humain, là, ils ont identifié deux façons de supporter la souffrance. Et ils sont d'accord pour dire que c'est pas la façon dont tu vas choisir de la vivre ou que tu vas la vivre va déterminer si cette souffrance-là va contribuer à quelque chose ou si elle va complètement juste te détruire. Et puis la première, c'est la résolution et la réévaluation de la situation. Ça veut dire que dans cette situation-là, il y a un choix de regarder à ça, de regarder, d'y faire face et de la considérer. Il y a une résolution, puis il y a une réévaluation de la situation. On va le développer davantage. Oh, mes animations sont mêlées. L'autre, c'est l'évitement. C'est simple, comme ça, l'évitement. C'est quoi ça, l'évitement? Éviter la souffrance. Qu'est-ce que ça donne dans une vie de fuir la souffrance, de chercher à tout prix à l'éviter? Qu'est-ce que ça produit comme fruit? Ça donne pas des forces, en tout cas. Non? Autre chose. La fuite. Oui, Sylvie. Ce que tu fuis te poursuit. Intéressant. Ça nous amène à l'insensibilité. Oui? Ça nous amène à prendre le contrôle nous-mêmes de notre propre vie parce que, écoute, si on ne veut pas souffrir, si notre objectif c'est de ne pas souffrir ou de ne pas voir la souffrance, il faut qu'on contrôle tout là autour. Là, ou qu'on essaye. Mais quand on n'y arrive pas, oh là là, oui, Richard.
Ça peut faire l'effet inverse aussi. Ça peut être une fuite dans la drogue, dans l'alcool.
Ça va créer une fuite. Ça va nous emmener à avoir le goût de fuir dans quelque chose, de s'engourdir, de s'étourdir. Et là, ça peut être plein de choses. OK? Ça peut être, oui, les substances, l'alcool, l'engourdissement là, vraiment profond, là, mais ça peut être également d'autres choses qui sont, au niveau de la société, beaucoup plus louables. Ça l'amène aussi, là, tu me parles complètement dans d'autres choses, je vais finir ma phrase, je vais y revenir. Mais c'est ça, ça peut être également des choses beaucoup plus acceptables socialement, Ouais, là, l'aide à mourir est acceptable socialement. C'est ça que tu voulais dire, Maurice? J'avais pas compris. Oui, effectivement, ça nous amène jusque-là. Ça peut être aussi le travail, le sport. Ça peut être une passion, un quelconque. Oui, Robert?
Nier notre humanité.
Ça nous amène également à nier notre humanité. Oui, ben oui, tu viens, faut que tu te coupes complètement d'une partie de ce que tu es. On est intellectuel, mais on est aussi émotionnel. Et quand il faut que j'évite la souffrance à tout prix, ben là, l'émotionnel devient un problème. Donc, on est capable de mettre la switch à off. Dans des situations où ce qu'on perd le contrôle, il y a quelque chose qui se passe là. Et ça n'amène pas notre monde émotionnel à être en paix, en harmonie, dans ce qu'on est supposé vivre en relation avec Dieu. Là. Fait qu'il y a quelque chose. Et quand la switch est à off, on se coupe d'autant de ce qui est bon que de ce qui est mauvais. Il n'y a rien à être consolé parce que j'ai pas besoin de la consolation de Dieu parce qu'on est tellement dans notre tête qu'on est... On est autosuffisant. On est suffisant. Moi, je connais la vérité et je m'en suffis et c'est bien comme ça. Et puis, je suis stoïque. Moi, j'ai été comme ça longtemps. Puis, c'est vraiment ma tendance naturelle. Vraiment, là. Quand je pense à moi dans mon passé, là, c'était vraiment ça. Puis, non seulement ça, mais les émotions, c'est complètement inutile. C'est comme un organe dans ton corps qui est complètement inutile, qui finisse par enlever si ça cause problème. Moi, j'ai plus mon appendice. Hein. On me l'a enlevé, il causait des problèmes, puis je vis très bien encore aujourd'hui. Les émotions, c'est un peu la même chose dans ma tête à moi. Oui, Yves?
Je pense que le pire qui arrive pour moi, c'est comme un élève de mettre de côté la souveraineté et la providence de Dieu.
Oui, il y a dans l'évitement, tu viens... Ça a un impact jusque dans ta relation avec Dieu. Tu mets son élément de souveraineté complètement de côté. Et puis aussi, tu t'opposes à la façon dont il t'a créé. Et il t'a créé avec des émotions, il t'a créé avec ça. Et tu mets ça de côté en disant, Dieu, tu t'es trompé. Ou les émotions sont venues avec la chute. Avant, on n'en avait pas. C'est pas vrai. OK? Mais oui, tu viens qu'à remettre en question la souveraineté de Dieu parce que quand tu fais face à une souffrance inévitable, tu peux pas faire autrement que de finir par lever le poing en l'air puis de dire, Seigneur, là, en réalité, tu n'as pas mon bien à cœur. Parce que ta priorité, okay, ce qui a le plus de poids pour toi dans ta vie, c'est ton bien-être et ton bonheur. Et non la mission pour laquelle Dieu nous laisse sur la terre. Ça vient d'enlever tout ça, là. C'est une forme de rébellion. L'évitement. Mais c'est important, là, ce qu'on est en train de dire, là. L'évitement va jusque-là. Oui, Sandra.
Ça ne nous amènera pas à développer la compassion envers quelqu'un d'autre qui va souffrir aussi.
Ben, ça ne nous amène pas dans la compassion pour accompagner les autres, absolument pas. Ça nous amène à accompagner les autres en voulant dire, ben regarde, là, t'es un enfant de Dieu, t'es supposé supporter la souffrance pour sa gloire. Fait qu'avale ta pilule et puis glorifie Dieu parce que là, ta petite crisette, là, ou ta petite montagne d'émotions, là, elle fait pas ça pantoute. C'est triste, là. Mais écoutez, c'est réel, c'est concret. C'est vrai. Ça nous amène dans l'isolement. Ben oui, parce qu'à un moment donné, tu ne veux plus vivre dans ce monde-là. Tu ne veux plus vivre. Même Dieu, il t'a en quelque sorte trahi. Parce qu'il n'a pas respecté le plan. Ben le sien, toi, ton plan, c'était de ne pas souffrir. Non, mais écoutez comment on m'a présenté l'Évangile. On m'a dit... que Dieu avait un plan merveilleux pour ma vie. Ben moi aussi, j'en avais un. Fait que là, nos deux plans se sont mis ensemble. Dieu va m'aider à accomplir ce plan merveilleux-là. Puis même, il dit que son plan est encore plus grand que le mien, plus merveilleux. Hey, mets les deux ensemble, je vais capoter. J'ai assez hâte de voir tout ce que le Seigneur va faire pour moi, puis tout le bonheur, la prospérité que je vais avoir, l'influence que je vais avoir sur les autres. Écoutez, là. Mais c'est je. Oui, mais l'évitement est vraiment le moi, le bonheur de moi est très au centre de l'évitement. On sait que c'est pas bon, OK? On le sait que c'est pas bon. Mais on le fait pareil. On évite nos souffrances. On les évite. Moi, en réfléchissant à ça, en préparant ça, je m'observais de loin. Puis je me dis, oh là là, grosse lumière rouge, il y a quelque chose dans ça, on s'en rend pas compte. Oui,
Maurice.
Oui. Jésus a soulagé des souffrances, a guéri. Oui. Ah oui.
Il a même ressuscité Lazare.
Et c'est important ce que tu dis parce que c'est pas parce que on regarde la souffrance comme on le dit là présentement là, OK? Que notre lot de tous les jours n'est que souffrance et ne sera que souffrance. Tu comprends? Et là, ça vient encore là dénaturer le but de la souffrance, parce que là, il y a façon de tourner ça encore vers le moi et de dire, bon, je grandis à travers la souffrance. Donc, amène-en de la souffrance, je suis capable d'en prendre. Et là, on devient maso, je vous dis, là, c'est pas fou ce que vous faites des drôles de face, là. Oui, parce que la souffrance, je suis confortable seulement dans la souffrance. Je suis tellement pieux, OK? Je veux tellement la gloire de Dieu, je veux tellement grandir pour le Seigneur que le seul endroit où ça se produit, c'est quand je souffre. Et là, on tombe dans l'autoflagellation et c'est un gros courant qu'on a vu dans l'histoire. Où est-ce que les hyper-religieux s'auto-flagellaient tous les jours? OK? C'est un extrême exemple du cœur de l'homme. Et on peut le vivre à différents niveaux, OK? Dans nos cœurs. Et c'est encore centré sur moi. Parce que le but, c'est que moi, je sois digne de Dieu. Et Dieu me dit que c'est dans la souffrance que je vais grandir et que je vais être digne. C'est ça que Dieu dit? Quasiment.
Parce qu'on est le corps, on est le temple du Saint-Esprit, il faut faire prendre attention.
Oui. Alors, ben oui, ça fait partie d'une saine gestion de tout ce que Dieu nous donne. De rendre gloire à Dieu, ça fait aussi prendre soin de nos corps, prendre soin de ce que Dieu nous donne est aussi important. Mais pas dans le but, c'est pas la fin en soi, comprenez? Le but, c'est pas d'être prospère. Oui. Oui. Il a attendu qu'il meure. Ressuscité. Puis quand il était devant Lazare, puis qu'il pleurait, c'était pas parce que Lazare était mort. C'était contre la mort qu'il était en colère. Il était en pleurs, il était en colère contre la finalité, la souffrance et la douleur que le péché a amené dans le monde. Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter Lazare. Et les termes qui sont là sont beaucoup plus forts dans le grec que c'est dans le français ou dans l'anglais. Quand elle se produit, elle n'a qu'un seul objectif, la gloire de Dieu. Donc, quand on prie puis on dit, Seigneur, t'es supposé me guérir parce que ça va te rendre gloire. Oui, c'est de guérir, ça va te rendre gloire. Ça va rendre gloire à Dieu. Oui. Mais écoutez bien, Dieu recherche ce qui va lui rendre la gloire le plus. Comprenez? Et le plan de Dieu n'est pas nécessairement le mien. D'une façon logique, Seigneur, je suis convaincu, il n'y a pas de façon qui te rendrait plus gloire dans la situation présente que si tu me guéris. Tu comprends-tu? Dans ma perspective à moi, il n'y en a pas d'autre façon. Dans la mienne. Ma grâce te suffit. Oui, quand Paul il a demandé au Seigneur d'y enlever cet aiguillon-là, Dieu, il n'a pas enlevé. Mais Paul a reconnu, Seigneur, aussi, c'est dans ma faiblesse que tu es fort à travers moi. Tu sais, il faut mettre vraiment tout ça en perspective quand on parle de souffrance, parce que sinon, on vient fou. On vient mêlé. Et après ça, on tient Dieu responsable pour des choses qui ne l'est pas. Et on se révolte. Et après ça, on tombe dans l'évitement parce qu'on dit la souffrance, ça sert à rien. Elle sert à rien, la souffrance. Et elle est en contradiction avec ce que la Bible nous enseigne. On peut aller jusque-là dans notre perspective de la souffrance. Mais à ce moment-là, faut comprendre que ce qui est au centre, c'est moi. Tu sais, la notion de que Seigneur nous, Jésus nous apporte quand il dit « Celui qui va vouloir garder sa vie va la perdre. » Bien, c'est ça, là. Quand je suis au centre de ma vie, je ne veux pas la perdre, je ne veux pas être brisé, je ne veux pas être malheureux. Je ne veux pas vivre ces souffrances-là. Et Seigneur, tu m'as fait plein de belles promesses. Je les veux, ces promesses-là. Mais ça nous amène à oublier le monde dans lequel on vit encore. On vit dans un monde déchu. On n'a pas atteint encore. Et quand on a parlé ensemble du but ultime de la souffrance et du mal, qu'est-ce que Dieu ultimement veut en faire? Il veut le détruire. Et non seulement ça, il veut emmener ça encore plus loin. Il veut non seulement la détruire une fois pour toutes, mais il veut également la restaurer. Ça veut dire que toutes les souffrances qu'on a vécues, elles vont être restaurées. On va trouver consolation et réparation au ciel. D'une façon à ce que notre cœur va être pleinement satisfait. C'est fou, là. C'est grand. Et il faut comprendre que si on aurait maintenant la justice qu'on réclame à Dieu, maintenant, là, aujourd'hui, il faudrait qu'on disparaisse avec le jugement de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire qui ne nous rend pas coupables et participants de ce mal-là et de ce péché-là et de cette déchéance-là dont nous sommes victimes et dont nous sommes également participants. On met tout ça en place, là. Wow! Ça change notre perspective. Ça change notre perspective. Et puis là, mes notes, je vais les prendre, je vais les mettre de côté. Ça m'emmène dans quelque chose que je pensais parler dans plusieurs semaines. Tu sais, avec Nebuchadnezzar, quand les Achap Abednego, là, les trois amis de Daniel sont devant la statue et ils sont supposés se prosterner devant la statue, ils ne le font pas, qui représentait une allégeance au gouvernement en place, comme à la fin des temps au niveau de la bête. Une allégeance sans mesure au gouvernement qui est en place, une adoration, puis une prosternation, puis une soumission, ils ont dit non. Nebuchadnezzar les prend, les emmène, puis il dit, écoutez, ça ne marche pas. Vous allez en payer de votre vie. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, notre Dieu est plus grand que ton Dieu, et puis je suis convaincu que Dieu va nous sauvé de tes mains. Puis là, tout de suite après, qu'est-ce qu'il dit? S'il ne le fait pas, c'est pas grave. C'est notre Dieu, puis on est prêt à mourir. Cette réponse-là, là, j'ai pas la référence par cœur dans ma tête. Là. Je suis convaincu que quelqu'un peut me la sortir demain. OK? Quelqu'un, Jean-Claude, tu t'en connais, gêne-toi pas, dis-le. Moi, c'est toi que j'ai dans ma tête, là, Jean-Claude, le sait, c'est sûr. Mais ce que la réponse témoigne, là, c'est phénoménal de toute la compréhension de la personne de Dieu. OK? Parce qu'ils sont dans une position où ils disent, je suis convaincu que Dieu va nous sauver. Mais s'il le fait pas, je suis prêt à mourir pareil. C'est-tu une contradiction, ça? Sais-tu, j'ai foi, puis là, ben là, tout d'un coup, j'ai un plan B. Je suis prêt à mourir quand même. C'est pas ça pantoute. Ça démontre un grand respect, comme tu dis, une soumission, Jean-Claude, à la personne de Dieu. Ça démontre une connaissance de la personne de Dieu incroyable devant une situation où ce que ta vie est en jeu. Ils disent à Nebuchadnezzar, on connaît suffisamment Dieu pour savoir que Dieu est capable de nous sauver. Et il est capable de le faire. Puis s'il le fait pas, c'est encore correct. Ça veut dire que je suis pas en train d'obéir à Dieu pour avoir la vie sauve. Je suis en train d'obéir à Dieu juste parce qu'il est Dieu. Point! Oui, Jean-Claude.
J'aime beaucoup cet aspect-là que tu es en train de développer parce que pour nous, les chrétiens, ça nous amène à changer la question lorsqu'on se trouve dans une situation de souffrance ou de maladie ou quoi que ce soit. La question pourquoi, on a déjà entendu ça, mais ça nous amène à changer le pourquoi en comment. La vraie question, c'est comment Dieu va se glorifier à travers cette vie.
Ça, c'est la vraie question.
Quand on est, je répète pour l'enregistrement, parce qu'on n'a pas encore de système pour capter dans la salle, là, ça s'en vient. Cette notion-là vient changer la question du pourquoi je suis dans la souffrance à comment. Comment Dieu va se glorifier à travers ce que je suis en train de vivre. Et c'est là qu'on se rend compte de tout l'impact que de comprendre la personne de Dieu, son plan, notre place dans ce plan-là, de faire confiance à sa souveraineté, à sa bonté, sa miséricorde envers nous, va nous emmener à être en mesure de changer ces questions-là. Va peut-être nous emmener à être en mesure d'accueillir chaque élément qui nous arrive dans notre vie, que ce soit la souffrance ou que ce soit la bénédiction, la délivrance. Ça nous amène à l'accueillir et à la recevoir comme étant toujours une grâce de la bonté de Dieu et une manifestation de sa gloire. Comprenez? C'est pas la notion, Seigneur, je suis avec toi dans ma vie parce que je veux que ça aille bien. Je suis avec toi dans ma vie, Seigneur, parce que tu es Dieu, point. La fin en soi est Dieu. La découverte de la personne de Dieu, l'approfondissement de sa personne, et non, comme on a souvent la quête aujourd'hui, de mieux me comprendre et de mieux comprendre le monde. Dieu nous aide à mieux se comprendre. Et quand on se comprend mieux, c'est plus facile grandir et être efficace dans la vie. Et là, de respecter toutes les valeurs que la société nous dit comme étant justes. Et c'est important de bien comprendre le monde. Et là, Dieu devient un partenaire dans notre objectif, qui est quoi? D'apprendre à se connaître pour être plus efficace, pour être mieux avec nous-mêmes et plus en paix, et de vivre cette joie-là et cette paix profonde-là que Dieu nous promet, et de mieux comprendre le monde pour mieux fonctionner, pour mieux prospérer, mieux faire fonctionner toute la poutine. Comprenez? L'objectif devient quoi? Comprendre. Moi. L'objectif n'est pas Dieu. Et pas comprendre Dieu parce qu'il est Dieu. Se rapprocher de Dieu parce qu'il est Dieu. Et quand on se concentre à la bonne chose, à connaître Dieu, ben non seulement c'est inévitable que de mieux se comprendre va se produire, c'est inévitable que mieux comprendre le monde va se produire, que tous les fruits qui découlent d'une relation intime et sincère et vrai avec Dieu vont apparaître dans notre vie comme étant la conséquence de notre quête, de notre recherche de la personne de Dieu. Les fruits ne sont pas l'objectif. elles sont les conséquences. Si vous suivez Dieu pour avoir des fruits dans votre vie, vous n'avez pas vu Dieu. Vous espérez le fruit. Et Dieu est un moyen. Dieu n'est pas un moyen. Et là, quand la souffrance arrive, au-delà de notre compréhension, parce qu'il y a des petites souffrances qu'on est capable de gérer dans nos vies, tu sais? Mais quand la souffrance nous frappe au-delà de notre compréhension, où est-ce que là nos plans s'effondrent, OK? Ben là, on ne comprend plus Dieu et là, tout dérape. La semaine prochaine, notre frère Brian est supposé continuer de nous entretenir sur cet élément-là, la gloire de Dieu. Et puis toute cette notion-là de plan, puis ainsi de suite. C'est pour ça que je n'avais pas prévu aller en profondeur là-dedans, parce que la semaine prochaine, notre frère est supposé nous entretenir là-dedans aussi. Et puis, pour les deux autres semaines suivantes, on va toucher à des éléments concernant la gloire de Dieu également. Bon. Parenthèse vient de se terminer. On va voir les autres diapositives. Stratégie biblique pour parfois. On va en parler de toutes ces choses-là. Parce que quand notre cœur est dans la souffrance, c'est quoi que les Écritures nous présentent pour faire face à tout ça? Parce que l'évitement va nous emmener, avec toutes les conséquences qu'on a parlé depuis tantôt, à devenir stoïque, à refouler nos émotions, à se couper de nos émotions, à éviter le monde, à une rébellion contre Dieu, va créer toutes ces choses-là. Mais à l'inverse, quand on a une façon saine de répondre à la souffrance, comme on vient de le dire, d'accueillir, de faire confiance, de se soumettre à la souveraineté de Dieu, d'accueillir, et quand on dit accueillir, c'est accueillir tout ce qui vient avec. OK? De A à Z, tout. OK? Et le meilleur exemple qu'on a dans les Écritures, c'est les psaumes. David accueille tout. OK? Et à travers ça, on voit que les Écritures, à travers toutes ces histoires-là, nous proposent des stratégies pour comment marcher dans la souffrance, comment supporter la souffrance. Et je vais vous les présenter rapidement, pour que vous les preniez en note puis que vous les ayez en perspective, parce qu'on s'en vient là, OK? Il y a marcher avec Dieu. Il y a aussi les pleurs, pleurer, faire confiance et prier, penser, remercier, aimer et espérer, OK? Ces éléments-là, là, sont les stratégies bibliques qu'on voit dans les Écritures, à travers ceux qui font face à la souffrance, pour que la souffrance accomplisse parfaitement son œuvre. Pour dire comme Jacques, chapitre 1, « Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Pour être en mesure de faire ça, de les regarder comme un sujet de joie complète, il faut toujours avoir en perspective le but et la finalité de ces souffrances-là. » Et d'être en mesure d'accueillir ce qui vient, d'être en mesure de continuer de marcher, parce que quand on souffre, souvent, on arrête de marcher. Même, on va à reculons, bien souvent. On prend notre jambe à nos coups, puis nos jambes à nos coups, puis on se sauve. Oui, Yves.
Le but et la finalité que tu parles sont là, toujours en se rappelant qui on est.
Toujours. Oui. Je comprends que dans tout ça, là, ça peut être également des stratégies pour se replier sur soi-même. Oui, je sais, mais je veux le noter. Je veux le noter. Puis oui, il faut se rappeler qui on est. C'est pour ça que la préparation intellectuelle là, qu'on est en train de faire là, depuis plusieurs semaines, là, comme on l'a dit au début, est utile. Parce qu'on a besoin de d'y revenir comme des ancrages pendant la tempête. Ça va nous servir d'ancre pour pas partir à la dérive. Toutes ces vérités-là. On a besoin des frères et sœurs pour nous aider à tout ça. Parce que quand on est dans la souffrance, quand on est blessé, marcher, c'est difficile. parce que chaque pas fait mal. Comprenez? On a besoin les uns des autres. Et puis, on va y venir à l'autre étape. Prochaine étape, on va aller dans Hébreux 12. Mais c'est super important de dire que quand on accueille ce que Dieu nous donne, ce qui nous arrive dans la vie, d'une façon qui va le permettre, qui va permettre de rendre gloire à Dieu réellement, c'est de faire toutes ces choses-là. De marcher, de pleurer, de faire confiance, de prier, d'y réfléchir, de remercier, d'aimer et d'espérer. Tous ces éléments-là, il n'y a rien. C'est pas d'être stoïque, d'être de glace, puis de dire, avale ta pelule, regardez comment est-ce que je suis un bon chrétien, j'ai été capable de prendre un coup de plus. Moi, je me voyais endurant quand j'étais jeune. Mes souffrances, ma pelule, là, je ravalais. J'avais le gorgoton bien fort. J'étais capable de pousser ça dans le fond. Et puis, je me rends compte que c'était complètement une illusion de force. J'étais jeune, puis je n'avais pas été confronté à des vraies grosses souffrances encore. Parce que ça n'aurait pas tenu la route. Une vision du monde comme ça n'aurait pas tenu la route. Et quand l'effondrement serait arrivé, ça aurait été terrible. Merci Seigneur. Il m'a fait cheminer dans tout ça. C'est pas parfait, mais on grandit. Jour après jour. D'accueillir tous ces éléments-là. Il n'y a rien de stoïque là-dedans. Ce n'est pas l'évitement, mes frères, mes sœurs, qui va nous emmener à vivre nos souffrances d'une façon qui va glorifier le Seigneur. Donc, évitons d'éviter. Et là, c'est encore plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tellement important parce que ça a une influence dans nos relations les uns les autres. Quand un frère, une sœur nous dit quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement entendre, est-ce qu'on repousse, est-ce qu'on évite ce qu'il nous conseille, ce qu'il nous dit, ce qu'il nous soulève? Ou on l'accueille avec cette perspective-là, que ça va nous faire vivre encore quelque chose qu'on n'a peut-être pas le goût de vivre, mais que Dieu m'appelle à vivre. Que le frère, que la sœur le fasse de la bonne façon ou non, il y a quelque chose dans ça qui est pour la gloire de Dieu dans ma vie. Et est-ce que je l'évite ou je l'accueille? Je vous laisse cette petite réflexion-là. C'est un bonus. Hébreux 12. Pourquoi Hébreux 12? Parce que dans Hébreux 12, c'est tellement un passage qui est riche concernant la souffrance. On est devant Hébreux 12, 11 ici. « Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. » Il dit, oui, là, ici, il parle des corrections que Dieu va donner à ses enfants. Oui, ça fait mal. C'est difficile. Premier abord, ça nous rend triste. C'est difficile de voir ça comme un sujet de joie. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste vécue dans la paix. Il y a un fruit. Sur le coup, c'est jamais plaisant de se faire corriger par Dieu. C'est jamais plaisant de voir des souffrances comme ça qui nous arrivent. Que ce soit pour une correction de la part de Dieu ou simplement, non, Dieu est souverain de toute façon. Il est au contrôle de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Fait qu'il arrive à rien pour rien de toute façon. Fait que chaque chose contribue à nous corriger, à nous rendre de plus en plus à l'image de Dieu. Fait qu'on peut mettre bien des choses dans cette correction-là. Qui t'a averti? Écoute, Dieu, dans ma compréhension de tout ça, Dieu va faire tout ce qui est nécessaire pour nous emmener à la compréhension. OK? Et je ferme la parenthèse. Par la suite, ça porte un fruit, dans le but qu'on vit une vie juste, vécue dans la paix. Il y a un fruit pour nous aussi, mais le mot ici est ici, sur lequel je veux qu'on attarde notre attention ce matin, qui est le mot « former ». OK? Pourquoi ce mot-là en particulier? Parce que ce mot-là, là, sa signification vient donner tout un sens. Nous amène dans une image, une allégorie qui va mettre tout ça en place. C'est le mot « gymnasdo ». Et le mot « gymnasdo », c'est quoi qu'on voit comme mot dans ça? C'est « gymnase », »,« exercice ». OK? Et ce mot signifie littéralement « entièrement déshabillé ». S'entraîner, nu, s'exercer. Gymnase d'eau, là. C'est entièrement déshabillé, s'entraîner nu, s'exercer. Et cela revenait à faire une série d'exercices visant à affermir des parties encore peu musclées du corps et à développer celles qui l'étaient déjà. Et là, l'élément qui est intéressant, c'est exercice, former, mais également à nu, déshabillé. Aujourd'hui, on s'habille quand on va dans le gymnase. OK? Dans le temps, en Grèce puis tout ça, ils faisaient tout ça tout nu. Les Olympiques puis tout ça, là, il n'y en avait pas d'habits. OK? C'est un mot grec. C'est les Grecs qui en, tu sais, mais ils vivaient littéralement. Mais il y a dans ça la notion que quand tu es dans le gymnase, tu ne peux rien cacher. Tout est dévoilé parce que tu es mis à nu. Quand tu fais de l'exercice, tes forces, les gens vont les voir. Tes faiblesses, les gens vont les voir également. Parce que tu es dans l'exercice. Le but du sport, le but de l'exercice, c'est justement de mettre à découvert tous ces éléments-là dans le but de les identifier pour les renforcer. Aujourd'hui, quand on va dans le gymnase, on change nos vêtements. On se met des vêtements qui vont nous permettre de nous étirer, qui vont nous permettre de bouger, de mettre notre corps sous pression sans que ça nous gêne. Nos vêtements de tous les jours nous rend pas aussi fluides dans nos mouvements. Avec nos vêtements de tous les jours, c'est facile de cacher nos imperfections. Quand tout va bien, c'est facile de faire paraître qu'on est fort partout et que ça va bien dans tout. Mais quand on arrive dans le gymnase puis qu'on met nos belles petites shorts serrées, nos imperfections puis notre corps, les gens les voient. Et quand on est dans l'exercice, quand on est dans le sport, nos forces et nos faiblesses vont devenir évidentes pour tout le monde. Et l'exercice, l'élément de s'exercer, de former, a vraiment pour but, tu vas dans le gymnase dans le but de mettre sous pression les parties du corps que tu veux développer, dans le but de les renforcer. Mais celui qui est en train de faire des poids puis des haltères, là, t'es-tu en train d'y dire, ouais, t'es en train de te renforcer? Mais c'est drôle, moi, à chaque coup que je fais, j'ai l'impression de faiblir. Chaque coup que je vais donner, je faiblis. Après ça, il faut que j'arrête. Mais sans que je ressors du gymnase, je suis pas, si tu t'es entraîné pour de vrai, là, t'es pas plus fort qu'en rentrant, là. Tu souffres, t'es fatigué, t'es vidé, t'es drainé. Mais tu sais très bien que c'est ce processus-là de mettre ton corps sous tension qui va quoi en bout de ligne? Le rendre plus fort. C'est le processus, c'est la constance, le fait de marcher. Le marcher, c'est un pas devant l'autre, constamment. Et ce processus-là de mettre ton corps sous tension va produire un fruit. Mais quand on est dedans, on se dit, Wow, il est fou, il est malade, mon coach est pété ben raide, il connaît pas mes limites, il sait pas ce qu'il fait, c'est-tu vraiment un coach? Y a-tu vraiment mon bien à cœur? Il se fout de moi en réalité, regarde comment j'ai mal. Je me suis déjà entraîné, puis après ça, pendant 3-4 jours, j'avais de la misère à m'asseoir sur une chaise. Puis là, tu te dis, il est fou, il est malade, il était ben trop loin. Mais en réalité, il y avait des choses à briser. L'entraîneur, s'il fait sa job comme il faut, il va réellement être en mesure de doser l'attention qu'il met sur ton corps pour que le bon fruit en ressorte. Mais en même temps, si ton entraîneur ne fait pas bien ça, puis il te pousse trop loin, trop vite, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te blesser. Puis il va falloir que tu arrêtes tout. Et c'est pas mieux. Mais savez-vous quoi? Dans nos vies, c'est pareil. Nos souffrances, comme il nous est révélé là, nos corrections que Dieu nous donne, ont pour but de nous former. Et notre coach, notre entraîneur, c'est Dieu. Si on est en... Si on, ben oui, c'est toujours si on l'accepte, si on l'écoute, oui. Si... Oui, on prend pour acquis qu'un véritable enfant de Dieu va avoir ces dispositions-là. Oui,
mais
oui, bien là, c'est là que tu vas te blesser. Mais ton l'entraîneur va revenir, puis il va te reprendre où ce que tu es, puis il va te ramener dans son parcours, dans son programme. Il va te restaurer également. Bien, c'est tout qu'un processus. C'est tout qu'un processus. Et c'est là qu'on prend que... Écoute, mais on reste quand même entre les mains de Dieu. Dieu n'est pas surpris par nos écarts et toutes ces choses-là. Dieu est l'entraîneur parfait. Et Dieu, dans 1 Corinthiens 10, 13, qui nous dit, 1 Corinthiens 10, 13, « Les tentations qui vous ont été assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il prépare le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Ça veut dire que Dieu va permettre des choses. Dieu va également mettre une limite, un stop à ces choses-là également. Comprenez qu'on a un entraîneur en qui nous pouvons avoir pleinement confiance. Mais oui, c'est un entraînement dans le but de nous mettre à nu. Les souffrances nous amènent à être à nu. Les gens vont voir mes imperfections. Les gens vont voir mon impatience, vont voir mon anxiété. Les gens vont voir ma colère. Les gens vont voir tous les défauts qu'on voudrait pas voir dans notre vie, qu'on essaie de cacher aux autres. Nos frustrations, notre amertume, nos sautes d'humeur, ou peu importe ce que tu veux mettre là, les souffrances, les tensions nous mettent à nu. On fait pas ça. Écoute, c'est inévitable. Et quand on vit dans l'évitement, non, ça va bien, tout est beau, tout est sous contrôle. On se ment à nous-mêmes, puis on ment aux autres aussi. Là, on tombe pas dans le bon chemin, là. Comprenez? D'accepter tout ce processus-là, c'est d'accepter de voir le véritable état de notre cœur au moment où on le vit. Il y a une prise de conscience. Il faut prendre conscience de ce que Dieu est en train de mettre sous tension, sous pression. Comprenez? Nos souffrances ont pour but de mettre en lumière les endroits dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs, où est-ce que Dieu a encore besoin de transformer? Où est-ce que Dieu a besoin d'apporter l'Évangile encore? Comprenez? C'est pas une menace. Même là, c'est un sujet de joie. La souffrance, c'est pas la souffrance, ma joie. C'est le fruit de cette souffrance-là. dans ma vie. Et cette transformation-là dans ma vie, qu'est-ce qu'elle produit? La gloire pour le Seigneur. Ma transformation glorifie Dieu. Comprenez? C'est loin d'être inutile. Et on a réellement à se rappeler ces vérités-là pour nous emmener à accueillir ces moments difficiles-là d'une façon complètement différente que la nature humaine nous amène à le faire. D'avoir toutes ces choses-là en perspective. Et la clé, la solution, elle se trouve encore dans Hébreux, dans Hébreux 11. Et là, on va le lire au complet parce que là, il ne rentrait pas tout dans PowerPoint. À partir du verset 1, fait que si vous voulez tourner avec moi, on va terminer avec ça. Hébreux 12, chapitre 1, verset 1. Oui, ben écoute, c'est inévitable, je peux pas avoir étudié le passage sans le dire. Parce que écoute, c'est là. Chapitre 12, verset 1, OK? Non, c'est 12. C'est écrit, OK? Moi, je le lis dans la version sommaire. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. OK? L'épreuve qui nous est proposée. C'est quand même intéressant la façon dont Paul parle de ce rapport-là à l'épreuve. OK? Il y a quelqu'un derrière qui propose. Vous comprenez? Et c'est Dieu. Je lis dans version sommaire, Hébreux 12. Je suis rendu au verset 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'a porté à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. » Et c'est ça qui nous attend. Hébreux le fait, nous ramène toujours à la finale. 1 Pierre, le premier épître de Pierre, nous ramène ça constamment. Dieu revient, Jésus revient. Vous allez recevoir, vous allez voir la gloire de Dieu, mais également vos souffrances vont vous rapporter un prix. Et le meilleur modèle, c'est Jésus. Courez et regardez à Jésus, le modèle que nous avons, lui qui l'a fait jusqu'à la mort. Il a combattu le péché jusqu'à en mourir. Il a refusé de pécher jusqu'à en mourir. Quand est-ce que nous avons résisté au péché à en mourir? C'est quelque chose. De toujours garder les yeux fixés sur notre modèle, celui qui nous a ouvert le chemin. Jésus l'a fait en gardant en perspective ce qui l'attendait. Et c'est la même chose pour nous. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Pensez à celui qui a enduré, verset 3, de la part des hommes pécheurs une telle opposition. Tout ce que Jésus a vécu, il l'a vécu, pour pas qu'on se laisse abattre, pour pas qu'on se laisse décourager, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul à avoir vécu ces choses-là. Dieu, Jésus, il est là, puis il nous comprend, il nous console, il nous supporte. Il l'a enduré, c'est possible. Vous qui n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché, et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu nous adresse comme à des fils, « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction de Dieu et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige ceux qu'il aime. Tu es aimé de lui si tu traverses la souffrance. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Elles sont entre les mains de Dieu, elles ne sont pas en vain. ça change tout. Et le fait qu'il a lui-même souffert, ça change tout également. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. C'est fort. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leur idée. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Et de participer à sa sainteté vient nous rendre de plus en plus aptes à faire ce qu'il nous demande de faire dans 1 Pierre 2:9. Souvenez-vous? 1 Pierre 2:9. Souvenez-vous, c'est quoi ça? C'est 1 Pierre 2:9? Non. Le but ultime de toute chose, notre raison pour laquelle on est encore là sur la terre, de proclamer les vertus de Dieu, de rendre gloire à Dieu et de montrer au monde que Dieu est vertueux, que Dieu est digne de gloire et de louange, de nous faire grandir, de nous faire progresser dans notre sainteté, nous amène à être en mesure de lui donner gloire devant tous les hommes, de plus en plus, jour après jour. Certes, sur le moment, là on a le passage de 11. Et 12 est intéressant aussi. Écoutez, ça remet tout en perspective. Et la question qu'on peut se poser devant la souffrance, c'est: est-ce que Dieu est suffisamment digne de ma souffrance? Je souffre, c'est difficile. Mais est-ce qu'il en est digne? Est-ce que Dieu est digne que je passe à travers ça pour grandir et que je sois en mesure de le glorifier d'une façon encore plus grande qu'avant? Et ça, c'est la réponse que nos cœurs ont à répondre. Est-ce qu'il est digne de nos souffrances? On connaît la réponse de notre tête, intellectuellement, mais je pense que on peut questionner est-ce que nos cœurs le croient et demander à Dieu de faire descendre cette vérité-là encore dans notre cœur encore davantage, qu'il est le seul qui est digne de notre louange, de notre adoration et de la gloire. Et ça l'implique tout ce qu'on a parlé ce matin. Allons dans la prière. Merci Seigneur Jésus pour ce temps qu'on a eu ensemble ce matin. Merci, Seigneur, pour ces vérités qui sont tellement profondes, tellement grandes. Ces vérités, Seigneur, qui changent tout dans la façon dont on vit notre quotidien, mais également, Seigneur, dans la façon dont on vit les moments surréalistes de nos vies, Père éternel, qui nous dépassent complètement, dans lesquels, Seigneur Jésus, on souffre profondément. Et est-ce que à nos yeux, souvent, Seigneur, tout perd son sens. Seigneur, ces vérités nous servent d'ancrage. Père éternel, viens enseigner, viens éduquer nos cœurs, Père, pour qu'ils comprennent encore davantage l'ampleur de ta gloire, l'ampleur de ton amour, l'ampleur, Seigneur Jésus, de tout ce que tu es. Seigneur, donne-nous la force de faire face à ces souffrances avec toi. De ne pas les éviter, Seigneur, et de rentrer dans une rébellion, Seigneur, envers toi. Mais de rester dans l'accueil, de rester près de toi et d'exprimer, Seigneur Jésus, à chaque étape ce que l'on vit, ce que l'on voit, et de te chercher constamment, même, Seigneur, quand on souffre et qu'on n'a pas le goût. Préserve-nous de cette folie de se détourner de toi, Père éternel, que ces vérités ce matin nous encouragent à s'accrocher à toi en toutes circonstances, qu'elle nous encourage, Père éternel, à garder les yeux fixés sur Jésus, qui nous a précédés, qui a supporté ses souffrances, parce qu'il savait la gloire qui lui était réservée. Il savait, Seigneur Jésus, qu'en faisant ce qu'il a fait, ça permettrait à d'autres de voir ta gloire, d'en profiter, de s'en délecter pour l'éternité, Seigneur Jésus, en ta présence. Seigneur, viens faire cette œuvre dans chacune de nos vies. Merci de ta présence avec nous, de ce que tu nous accompagnes, de ce que tu nous comprends, de ce que tu nous réconfortes à travers tout ça, que ce n'est pas en vain. Merci, ô Seigneur. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Prenons le temps de louer le Seigneur ensemble dans la louange, dans la prière.